Bonsoir, comment allez-vous ? Dans la famille conseil aux jeunes mariés, vous connaissez la blague populo-sexiste. Avant de te marier avec une fille, regarde sa mère. Et avant de se marier avec un garçon, on regarde qui ? Pour savoir s'il sera toujours bel homme à 50 ans, on peut regarder son père. Mais pour savoir si nous, on sera encore là quand il aura 50 ans, il faut regarder sa mère. J'ai une amie qui a dit à son homme que le tiramisu de chez Bonne Maman était aussi bon que celui de sa mère à lui. Non mais faut être dingue pour dire un truc pareil. Elle va au-devant de graves ennuis. Pour une femme, épouser un homme qui a une bonne mère, c'est cool car il est plutôt équilibré, et pénible car elle ne sera jamais à la hauteur. Pour être valorisée, la solution est toute simple. Trouver un homme qui a une mère, compliqué. Il admire ce que vous faites, il ne vous compare pas et vous met joliment sur un piédestal. Pour lui, vous êtes la meilleure, la plus belle, la plus intelligente, vous êtes, comment dirais-je, la maman. Et à 50 ans, je ne sais pas s'il sera toujours aussi beau que son père, mais il sera toujours votre petit garçon. Vous lui préparerez ses repas, il vous parlera de ses petites copines et vous apaiserez ses peurs.
Bonjour, je m'appelle Simon, j'ai 4 ans et je voudrais savoir pourquoi les enfants la nuit ont peur du noir. Oh, bisous, au revoir.
Mais comment vous pouvez résister à une question pareille ? Elle est mignonne, mais elle est tellement importante et elle concerne tellement d'enfants. Docteur Michael Larard, pédopsychiatre.
La peur du noir, c'est une peur qui n'est pas pathologique, elle est quasi physiologique. C'est-à-dire qu'elle fait partie du développement de l'enfant. Elle illustre en réalité, je vais vous l'expliquer après, une angoisse de séparation de l'enfant vis-à-vis des parents. Pour dormir, il faut me retrouver tout seul dans le noir et me laisser aller à mes rêveries. Et donc, l'enfant qui est petit et qui a tendance à être collé à un adulte ou à faire gérer ses peines rapidement par un adulte ou ses angoisses rapidement par un adulte, mais il va ronchonner avant de se coucher et de s'endormir seul, totalement seul avec lui-même. Alors, comme il faut grandir et que je ne peux pas, quand je suis enfant, me sentir fier de moi en étant incapable de dormir seul, alors mon inconscient va venir à ma rescousse et va me faire encore une fois un tour de passe-passe. Il va me dire « Non, toi, t'es capable de dormir seul. T'as pas de problème avec ça, t'es un grand. Mais t'as peur du noir. C'est le noir ton problème. » Et dans le noir, tu peux même imaginer qu'il s'y passe plein de trucs. Donc, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas appeler papa et maman. Pas parce que t'as peur d'être seul, pas du tout. Parce que t'as peur du noir. Donc ça va te permettre de les retrouver. Mais en vérité, l'inconscient masque mal sa manœuvre parce que on voit bien que le noir n'est pas coupable. Les enfants, même les plus téméraires, n'allument pas la lumière. Ça, c'est toujours très étonnant. C'est-à-dire, même l'enfant qui obéit pas, il va appeler ses parents pour qu'ils allument la lumière. S'il a vraiment peur du noir, il attend que tout le monde dorme, il allume sa lumière et il dort. Ce n'est jamais le cas. Les enfants, plutôt que la veilleuse, préfèrent la porte entrouverte.
Oui, et allumer dans le couloir.
Oui, mais ce qu'ils veulent, c'est le bruit des parents. Parce que la réalité, c'est que la lumière des enfants, c'est le bruit des parents, encore présents.
Ils veulent être connectés sur le reste de l'habitation.
Et près de leurs parents, le plus possible, le plus longtemps, et le bruit va les bercer jusqu'à ce qu'ils s'endorment. Beaucoup d'enfants, d'ailleurs, disent à leurs parents « Je te préviens, vous endormez pas avant que je m'endorme. » Et puis, il y a toujours quelque chose qui me fait rire, c'est que ils peuvent dire « Non, mais c'est pas du noir dont j'ai peur. » Ils projettent sur l'écran noir toutes sortes de choses. « J'ai peur des monstres, j'ai peur des tigres. » Et je leur dis « Tu sais, moi, j'ai peur des tigres. Mais faire dodo avec ma maman et un tigre, ça va pas me rassurer. Pourtant, toi, t'as peur des monstres, et si maman, elle vient dormir avec toi, tout d'un coup, t'as plus peur. C'est bizarre, elle est drôlement forte, ta maman. »
Oui, elle chasse les tigres.
Exactement.
Beaucoup des livres du docteur Michael Larard sont épuisés. Vous pouvez retrouver la liste de ceux qui sont là et de ceux qui n'y sont plus sur notre site qui lui est toujours là en revanche. Ce soir, nous saurons si le cochon est un animal propre ou sale, comment est fait le café décaféiné et pourquoi nous ne connaissons pas l'identité du soldat inconnu. Toutes ces questions ont été posées au 01 56 40 43 57.
Bonjour, je m'appelle Lina, j'ai 11 ans et je voudrais savoir pourquoi il n'y a pas de ceinture dans le train. Merci.
Merci Nina, je n'y avais jamais pensé. Des ceintures dans les trains, Clive Lamming, vous qui êtes historien du chemin de fer. Ça vous parle cette question, vous prenez ?
Absolument, je suis très bretelle des ceintures, je suis un homme précautionneux. Pourquoi il n'y a pas de ceinture dans les trains? Parce que simplement, prenons par exemple un TGV, ça pèse 400 tonnes. Quand ça rentre dans un camion qui pèse 40 tonnes, ça ne discute pas. Le train continue. On a pratiquement pas de choc. On a d'ailleurs vu récemment un TGV rentrer dans un arbre, un tronc d'arbre qui était sur la voie. Le tronc d'arbre s'est promené, il a volé en l'air. Simplement, il a rebondi contre un mur et il est revenu contre le train. Et c'est là que ça a fait quelques dégâts. Mais c'est toujours le train qui gagne. Il est tellement lourd, le train, et tellement gros que c'est lui qui gagne, donc c'est pas la peine d'avoir une ceinture. Le choc, en principe, n'est pas dur, sauf en cas de déraillement, Brétinus orange, mais là même les ceintures n'auraient pas changé grand-chose. Autrement dit, la ceinture est vraiment inutile, parce que c'est toujours le train qui a raison contre le camion, voyez, et contre tout ce qui tombe sur les rails. Donc c'est pas la peine d'avoir une ceinture, on est en sécurité.
C'est vraiment intéressant d'avoir un spécialiste, parce que si moi j'avais dû répondre, si Nina avait été ma fille, je leur ai dit, mais tu imagines bien que c'est impossible de mettre une ceinture par voyageur. Je pensais que c'était la complexité.
Les fabricants de ceintures se feraient un plaisir de les mettre sur les 400 sièges d'une rame TGV ou les 1000 sièges d'une rame duplex. On peut mettre autant de ceintures qu'on fabrique de bretelles, il n'y a pas de problème. C'est pas un problème industriel, mais c'est vraiment tout à fait inutile. C'est le train qui, en général, a raison. Il est le plus lourd. Il vaut mieux être dans le train que d'être dans la voiture sur le passage à niveau ou d'être dans le camion.
Merci Clive Lamming. Le dernier livre de Clive Lamming est sorti cette semaine. Il s'appelle L'Orient Express. Il raconte l'histoire de ce train depuis sa conception jusqu'à son succès. Et il en a traversé des difficultés, pas Clive Lamming. L'Orient Express. Et il est édité chez EPA.
Je ne mâche pas mes mots. Je ne mâche pas. S'il m'arrive d'être foudroyé par l'éclair au chocolat, très souvent je me raisonne avant de replonger mon doigt dans la marmelade pomme préparée a cappella sur le piano. Si la seule vue du miel suffit à clarifier ma voix, l'aspartame à sa mémère n'édulcorera pas la colère de voir sous la princesse un petit poids.
Donc les mots, ça se mâche. C'était Camille.
Les petits bateaux sur France Inter.
Bonjour maman les petits bateaux. Je m'appelle Thomas et j'ai 11 ans. Je voudrais savoir comment on enlève la caféine du café. Merci, au revoir.
Bonsoir Thomas. Alors, nous avons proposé ta question à Patrick Masson qui n'enlève pas la caféine du café. Mais vous êtes importateur de café, Patrick Masson, et vous dirigez la maison Paul Jobin au Havre. Donc j'imagine que vous savez comment on fait.
Oui, tout à fait. Alors, je connais en tout cas, c'est pas mon métier, mais je connais en tout cas les grands principes de décaféination. Il y a 4 grandes méthodes pour décaféiner le café. La première méthode est la plus ancienne et la plus connue, qui est d'utiliser un solvant chimique qui s'appelle le chlorure de méthylène et qui sert à fixer la caféine. La caféine étant fixée, on rince ensuite le produit avec de l'eau, et on finit par obtenir un café. Je rassure les consommateurs, il reste plus du tout de traces du solvant chimique, mais ce café a perdu la plus grande partie de sa caféine. C'est même très rigoureux en termes de normes pour être sûr qu'on ne dépasse pas un certain niveau résiduel de caféine, sinon on peut pas le vendre en tant que décaféiné. Bon, c'est la première méthode, c'était la plus ancienne, c'est celle que moi je connais depuis au moins 40 ans.
D'accord.
Ensuite est apparue une méthode de décaféination à l'eau, parce que la caféine est soluble dans l'eau. Beaucoup de gens l'ignorent, mais...
Ah bon ?
Oui, et c'est pour ça, notamment, je fais une petite parenthèse, que lorsque vous préparez un café en filtre, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, il est beaucoup plus chargé en caféine qu'un café à l'espresso. Parce
ah
que,
bon
oui, le produit reste en contact avec l'eau beaucoup plus longtemps, et la caféine se fixe beaucoup plus dans l'eau, puisqu'elle est par définition et par essence soluble dans l'eau.
Ah, oh bah tant mieux, moi, je sais ce que je fais.
Alors, vous faites comme vous voulez, du moment que ça vous plaît, c'est l'essentiel. Hein. Ceci dit, c'est bien de savoir tout ça, parce que ça permet de mieux comprendre un certain nombre de choses. Alors, une fois qu'on sait qu'on peut le fixer avec l'eau, on fait une décaféination à l'eau, je me répète. Ensuite, on utilise deux autres procédés. Un qui s'appelle l'acétate d'éthyle, qui lui aussi est un solvant qui va servir à fixer la caféine. Et enfin, la dernière méthode, qui est probablement la plus onéreuse, mais aussi une des moins dommageables pour la saveur du café, c'est l'utilisation de gaz carbonique à l'état liquide ou bien supercritique, qui va permettre d'enlever la caféine et surtout d'éviter d'altérer et en grande partie les qualités du café, notamment les qualités gustatives. C'est plus cher, c'est meilleur, et c'est aussi probablement quelque chose d'un petit peu moins effrayant que des procédés chimiques. Quoique, je me répète, aucune trace de solvant chimique ne reste dans le café une fois qu'il est décaféiné.
Maintenant, Patrick Masson, y a-t-il des cafés qui contiennent plus ou moins de caféine ?
Alors, c'est une fois de plus une bonne question, oui. Il y a des espèces, notamment, le Robusta a tendance à avoir beaucoup plus de caféine, quasiment le double, par rapport à l'Arabica. Et c'est vrai que beaucoup de gens disent, lorsqu'ils boivent du café, le matin notamment, qu'ils aiment bien avoir un café avec un petit peu de Robusta, parce que ça va les réveiller davantage que si on utilise simplement de l'Arabica, qui va être un café beaucoup plus doux.
Donc, ceux qui veulent ça, dont je fais partie, il vaut mieux prendre du Robusta et une cafetière comme autrefois, quoi.
Ce que je me permets de vous conseiller, c'est de prendre un café avec un petit peu de Robusta, parce que, en plus, le Robusta, non seulement vous aurez un petit peu plus de, un coup de fouet un petit peu plus fort,
ouais,
et puis vous aurez aussi, et surtout, une belle crème sur votre espresso, parce que le Robusta a tendance à favoriser la crème.
Vous êtes importateur de café. Votre café, vous l'achetez en grain noir ou en grain vert ?
Alors, le café est acheté en grain vert, c'est-à-dire qu'il n'est pas torréfié. La torréfaction permet ensuite, par une réaction qui est connue sous le nom, mais qui est connue aussi, par exemple, dans la fabrication de caramel, ça s'appelle la réaction de Maillard, et ça permet de développer tous les arômes et toutes les saveurs dans le café. Et ça, c'est en fait le café torréfié. Quand vous torréfiez du café, vous procédez à une sorte de caramélisation du café. Il faut pas trop le torréfier, parce que sinon, vous
brûlé.
Allez avoir un goût de brûlé qui n'est pas bon, ou vous allez avoir des huiles qui vont apparaître, qui vont pas être bonnes. Mais si vous le torréfiez, en général, on considère que robe de moine comme couleur, c'est pas mal. Eh bien, à ce moment-là, vous avez un café où tous les arômes vont pouvoir se développer tranquillement.
Merci Patrick Masson. Ah, je suis contente d'avoir eu l'histoire de la mousse, parce que quand même, la mousse est tellement bon. Alors maintenant, si vous ne voulez pas un café caféiné, moi j'ai acheté chez le bio un truc qui vaut ce qu'il vaut, qui est du faux café, c'est fait avec de l'orge. Moi je trouve pas ça si mauvais. Mon père m'a dit que ça ressemblait à ce qu'il buvait pendant la guerre. Évidemment, ça donne pas une idée très gastronomique du breuvage.
Bonjour, je m'appelle Tanguy, j'ai 8 ans. Et je voudrais savoir, enfin, j'ai vu dans une émission que les cochons étaient plus propres que nous. Est-ce vrai? Merci de me répondre. Au revoir.
Je m'appelle Émile, j'ai 6 ans, et j'aimerais savoir pourquoi les cochons sont-ils sales? Merci.
Ça vous fait mal, hein, d'entendre ça, Nicolas Braïc. Hein. Émile, pourquoi les cochons sont-ils sales ? Émile répète peut-être ce qu'on lui a dit. Et alors, sont-ils plus propres que nous ?
Alors oui, les cochons, en fait, sont des animaux très grégaires qui vivent en famille et qui, en fait, ont des conditions d'hygiène très respectables. En fait, ils ont un endroit où ils mangent, un endroit où ils dorment, un endroit où ils font leurs besoins. Alors, lorsqu'ils sont dans des espaces immenses, il ne va pas y avoir de zone spécifique là où ils font leurs besoins. Mais ils vont toujours s'écarter de la zone où ils dorment pour aller faire leurs besoins. Ils sont extrêmement soucieux de bonnes conditions d'hygiène et de vie sur leur point d'alimentation et leur point de repos.
Alors pour répondre à Tanguy Nicolas Braille, qu'ils ne sont pas ni moins propres ni plus propres que nous, ils sont aussi propres que les plus propres d'entre nous.
Voilà, on pourrait comparer en fait les cochons à des campeurs qui en fait se soucieraient de préserver on va dire le bon fonctionnement du campement, et donc ils font attention à leur déjection et ils font attention à leur point d'alimentation.
Cela dit, quand on habite une toute petite habitation, c'est toujours le bazar. Et quand on habite une belle et grande maison, c'est relativement simple de la tenir harmonieuse et ordonnée. C'est la même chose pour les cochons.
Voilà, malheureusement, beaucoup de cochons n'ont pas accès à beaucoup d'espace et on les trouve sales parce que lorsqu'ils n'ont pas d'autres solutions, également pour réguler leur température, ils vont aussi se rouler dans ce que l'on appelle le lisier. Et on les catégorie en salle, mais en fait, ce sont nos conditions d'élevage qui les forcent à avoir ce type d'attitude.
Ils en souffrent.
Ils en souffrent beaucoup parce que ce sont des animaux qui font attention en fait à leur derme, à leurs conditions de vie.
En fait, ils ont une peau avec pas beaucoup de poils.
Ils ont. Alors, ça dépend du mode d'élevage. Mes cochons sont poilus.
Allez, vous.
Voilà, ils sont poilus et bronzés parce qu'ils voient le soleil. Et en fait, ils ont besoin donc de cette régulation du derme et ils ont besoin donc d'avoir en fait une couche protectrice une peau assez épaisse pour l'hiver avec de la graisse. Lorsqu'ils ont une humidité constante, y compris dans les conditions d'élevage de porcs industriels, même si on chauffe le bâtiment, c'est pas évident pour eux parce qu'ils sont tout le temps humides.
Pauvres petits cochons. Les cochons chez Nicolas Braic sont bien élevés, puisque Nicolas Braic est éleveur en cochons bio. Les grands restaurateurs se l'arrachent, pas Nicolas, ses cochons.
Met my love by the gasworks wall. Dream the dream by the old canal. I kiss my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old town. Clouds are drifting across the moon. Cats are prowling on their beat. Springs a girl from the streets at night. Dirty old town, dirty old town. The smoky wind. Dirty old town, dirty old town. I'm gonna make me a picture box. Shining steel, tempered in the fire. I'll chop you down like an old Dutch tree. Dirty old town, dirty old town. I met my love by the gasworks wall.
It was Dirty Old Town by the Pogues.
Ce n'était pas ma voix ni mon accent, hélas, mais celui de notre stagiaire franco-irlandaise, Julia Meroux. Vous savez que samedi prochain, nous serons le 11 novembre et que sous l'Arc de Triomphe, tous les soirs à 18h30, vous pouvez assister au ravivage de la flamme du soldat inconnu.
Bonjour, je m'appelle Evan. J'ai 9 ans, je voudrais savoir pourquoi nous ne connaissons pas l'identité du soldat inconnu. Et aussi, était-il seul soldat inconnu ou il y en avait d'autres comme lui? Merci, au revoir.
Bonsoir Evan, merci pour ta question, bravo pour ton organisation. Il y a deux questions. Jean-Yves Le Naour, historien, écrivain, spécialiste de la Première Guerre mondiale, vous avez écrit chez Découverte Gallimard, Le soldat inconnu. Alors vous comprenez ce que demande Evan, pourquoi nous ne le connaissons pas et si il était seul ou s'il y en avait d'autres?
Alors oui, d'abord, effectivement, on ne sait rien de ce soldat inconnu parce que c'est un symbole. Et c'est le symbole du sacrifice de la France, des soldats français. Donc, il doit être anonyme puisqu'il représente l'ensemble du sacrifice. C'est un petit peu le corps public de la nation. Une sorte de Christ patriotique, celui qui s'est sacrifié pour que la patrie vive. Donc, il doit être anonyme. Et malheureusement, il n'est pas seul. Il n'est pas seul parce que sur les 1 400 000 morts de la Grande Guerre, eh bien, en 1918, on compte 300 000 disparus. Et ce sont des soldats dont on n'a pas retrouvé les corps. Et en fait, il y en a un petit peu plus, puisque parmi les soldats qui ont été déclarés morts, pour lesquels les familles ont été averties en recevant un avis de décès, il y en a dont les corps se sont perdus en quelque sorte, parce qu'on a retiré la plaque d'identité. Entre 1914 et 1917, cette plaque, elle n'est pas en deux exemplaires, elle en a un seul exemplaire. Donc quand vous la retirez pour dresser l'acte d'état civil, ensuite le corps n'a plus d'identité. Et puis ensuite, partie 1917, c'est une plaque qui est sécable en deux morceaux, c'est-à-dire qu'on en laisse un morceau sur le corps, et puis il y a un morceau qu'on prélève qui permet de rédiger l'acte d'état civil de décès.
Jean-Yves Le Naour, puisque c'est un symbole, ce soldat inconnu, sous l'Arc de Triomphe, il n'y a personne.
Ah mais si, il y a un corps sous l'Arc de Triomphe, bien sûr. On a rassemblé 9 corps de 9 champs de bataille différents, la Marne, les Vosges, la Somme, Verdun, etc. Et on a rassemblé ces corps à Verdun, dans la forteresse de Verdun. Et il y avait un corps pour lequel l'identité n'était pas certaine. Ça pouvait être un Américain, un Allemand, on ne sait pas trop, on n'allait quand même pas mettre un Allemand sur l'Arc de Triomphe. Donc on a éliminé un cercueil et ensuite on a demandé à un caporal, Auguste Tain, de choisir un cercueil. Il en a choisi un dans les 8, donc une main innocente, en quelque sorte, et ce cercueil, eh bien, il a été envoyé à Paris, c'était le 10 novembre 1920, et le 11 novembre, il a été inhumé sous l'Arc de Triomphe. Au départ, on pensait le mettre au Panthéon, mais il y a eu une campagne pour l'Arc de Triomphe, parce que au Panthéon, il aurait été à côté d'autres gloires, mais on pensait que ce soldat, finalement, il était le plus glorieux, puisque il représentait le sacrifice de 1 400 000 Français.
Vous nous redonnez le nombre, non pas de morts, mais de disparus?
300 000 disparus. Mais après les exhumations systématiques du champ de bataille, quand on a remis les terres en état de culture, on a retrouvé 50 000 corps qu'on a pu identifier. Donc il y a 200-250 000 soldats qu'on n'a jamais pu identifier et qu'on n'a pas retrouvé. Et la terre rend encore des corps. Chaque semaine, chaque mois, on continue à trouver des poilus. Mais il n'y a plus personne, bien souvent, pour les pleurer ou pour se réunir à leur enterrement aujourd'hui.
Qu'est-ce qu'on faisait des morts, justement? Quelle était la logistique qui concernait les corps?
Alors, au début de la guerre, l'armée pensait faire des tombes collectives, des fosses communes. Mais les hommes ne voulaient absolument pas. Et les hommes ont imposé la tombe individuelle, afin que justement les identités ne se perdent pas. Donc on grave le nom sur la petite croix de bois, afin qu'on puisse un jour rendre le corps aux familles.
Donc c'était des tombes provisoires?
Oui, c'était provisoire, effectivement. Il y a énormément de petits cimetières dans la zone du front, qui parfois même ont été bouleversés par les bombardements, les tombes elles-mêmes profanées par la guerre, vous voyez. On ne peut pas tuer les morts, mais on a l'impression vraiment qu'ils mourraient une seconde fois. Et à l'issue de la guerre, on a regroupé ces petits cimetières dans des grandes nécropoles, comme Notre-Dame-de-Lorette, dans le Pas-de-Calais. Les Britanniques, eux, par contre, ont choisi de conserver les soldats morts dans des petits cimetières, à l'endroit où ils étaient tombés, entre camarades. Donc, si vous allez dans la Somme, vous avez des tas de petits cimetières anglais, tandis que les Français ont choisi, eux, de regrouper les morts dans des grands cimetières. Mais ils ont donné aussi la possibilité aux familles, avec la loi de 1920, de rapatrier le corps aux frais de l'État, dans le caveau familial. Donc il y a des familles qui ont choisi d'avoir le corps pour pouvoir aller prier, pour pouvoir aller pleurer sur la tombe, et puis d'autres ont préféré les laisser parmi leurs camarades au front, là où ils étaient tombés.
Si le ravivage de la flamme du soldat inconnu, c'est sous l'Arc de Triomphe à Paris, des monuments aux morts, il y en a dans la France entière, avec des noms et des noms d'hommes qui sont morts au front. Et ce qui est déchirant, c'est qu'on voit très souvent plusieurs noms d'une même famille. En 1970, le MLF avait évoqué la femme du soldat inconnu, la mère, la fille aussi. Les petits bateaux sont terminés pour ce soir. Vous pouvez bien entendu venir sur notre site et vous pouvez podcaster cette émission. Jean-Baptiste Audibert, Lucas Vaillant, Merci à vous. Merci également à Marjorie de Voucou qui a réalisé cette émission, assistée de Julien Meroux.